C'est l'heure de parler sport avec Olivier Beauregard. On va jeter un coup d'œil à ce qu'il a retenu, ce qui a marqué son attention dans la dernière semaine. Olivier, bonjour.
Salut.
On commence, en parlant pas de la dernière semaine, mais de quelque chose qui s'en vient ce soir, c'est ce match Canadien-Islanders.
Oui, exact. Je vous en parle parce que, on le sait, l'effet Patrick Roy avec New York fait en sorte qu'à chaque fois que le Canadien se présente soit à New York ou que les Islanders s'amènent à Montréal, ça rend un peu le match un peu spécial. Puis là, ça nous laisse parler de Patrick Roy, un peu ce qu'il fait là-bas. Patrick Roy qui a amené cette année un entraîneur adjoint québécois, Benoît Desrosiers, qui était avec les Olympiques de Gatineau là, avant de quitter, qui est en train de faire, eux, là, leur marque cette saison avec les Islanders de New York, parce que l'essai Patrick Roy, malgré qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas été prêtes à le toucher parce qu'on se disait, Patrick Roy, des fois, le personnage est un petit peu plus gros que l'équipe, je pense que cette expérience-là, à l'heure actuelle, là, faite par Lou Lamoriello et les Islanders, est plus convaincante. Parce que les Islanders, rappelez-vous, avant l'embauche de Patrick Roy, un peu plus tôt cette saison, ça en allait d'une part. Là, une équipe qui tardait justement à se qualifier pour les séries éliminatoires. Pas tarder à se qualifier pour les séries, mais à tarder à trouver une façon de gagner des matchs de façon régulière. Et on se posait la question, est-ce que les Islanders de New York vont être capables de compétitionner et de se rendre aux séries cette année parce que ça reste l'objectif? On s'en allait pas là. On s'en allait pas là du tout. Alors, Lamoriello a décidé d'amener quelqu'un qui allait fouetter ses troupes, un gars comme Patrick Roy. Puis il faut le dire, je pense que ça a été jusqu'à présent, en tout cas, très, très, très avantageux pour l'organisation parce que les Islanders de New York là, sont tout prêts de participer aux séries éliminatoires. Une cinquième participation, plutôt une quatrième participation en cinq ans. 87 points en 78 matchs. Évidemment, là, c'est pas fait, là, parce que chaque match est important pour les Islanders jusqu'à la fin de la saison qui se termine dans deux semaines, parce que les Capitals de Washington sont à 85 points, les Penguins à 84, les Red Wings à 84 et les Flyers à 83. Alors, ils se font pousser dans le derrière pas mal, mais reste qu'ils sont en avance. Ils ont, jusqu'à preuve du contraire, ils ont une place en séries éliminatoires. Alors, chapeau à Patrick Roy, parce que, comme je l'ai dit, cette équipe-là s'en allait nulle part. Et c'est drôle, aujourd'hui, évidemment, les journalistes, la presse montréalaise a rencontré les joueurs des Islanders. On a posé des questions sur Patrick Roy. Et je te dirais qu'unanimement, là, les commentaires à l'endroit de l'entraîneur-chef sont incroyables. Tu sais, Matt Barzal, qui est un joueur phénoménal, mais qui tardait à éclore cette saison, en a parlé. Lui, il a dit, écoutez, moi, là, j'ai rien à dire. J'aime tout de lui. C'est un gars qui sait comment gagner, c'est un gars qui peut nous montrer comment gagner et on a besoin de ça. Barzal qui a 6 points à ses 5 derniers matchs, mais qui a surtout plus de 30 points à ses 30 dernières parties. Depuis là, l'arrivée de Patrick Roy, je pense que ça prouve que lui, il se plaît à jouer pour l'ancien gardien des Canadiens de Montréal. Chose certaine, là, je pense que du côté des Islanders, c'est unanime. L'embauche de Patrick Roy, c'était la recette gagnante. Pas une équipe qui va gagner la Coupe Stanley cette année, là, évidemment, mais c'est une équipe qui s'est améliorée grandement avec un pilote comme Patrick Roy. Puis ça nous laisse justement là, faire un petit clin d'œil aux sénateurs d'Ottawa qui, eux, ont passé à côté de lui à plus d'une reprise et qui auraient eu besoin justement peut-être de ce coup de barre-là. Puis peut-être pour terminer sur ce sujet-là, Sébastien, bien, pour le Canadien de Montréal, Canadien qui est exclu officiellement des séries éliminatoires. Reste qu'ils peuvent jouer les troubles de fête. Toujours le fun de pouvoir faire ça en fin de saison. Ça donne le coup de gagner des matchs. Et bien, le Canadien pourrait justement là essayer de barrer l'ascension des Islanders vers les séries ce soir avec une victoire. Rappelons qu'ils l'ont fait aux Flyers de Philadelphie avec une victoire assez imposante de 9-3 un peu plus tôt cette semaine. Donc, le Canadien qui est éliminé, qui continue à s'améliorer, parlez-en à Jurav Slavkovski, qui a marqué son premier tour du chapeau en carrière contre les Flyers. Je pense que cette équipe-là s'en va vers la bonne direction, mais c'est décevant tout de même de ne pas les voir en séries éliminatoires cette année.
Sinon, c'est le tournoi des maîtres qui s'amorce aussi, hein, si on change de sport, là, mais donc tournoi des maîtres qui débute.
Oui, la 88e édition cette année, hein, qui commence aujourd'hui. C'est la présentation de la première ronde. Écoute, je m'en suis jamais caché, là, je ne suis pas l'expert en golf, mais moi, Augusta, j'adore regarder ce tournoi-là. Je trouve qu'à chaque année, il y a une histoire qui s'écrit et c'est une histoire particulière qui amène justement au couronnement d'un champion qui va finalement gagner son veston vert. Tu sais, tout le monde se rappelle de 2019 où Tiger Woods fait un retour historique qui va remporter le Master. Moi, écoute, j'avais tout simplement retomber en amour avec le golf à ce moment-là. Il y a tellement eu des belles histoires. Et cette année, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent s'inscrire. T'sais, plusieurs voient Scotty Scheffler l'emporter. On le voit comme, justement, le gars qui devrait le gagner parce que c'est pas compliqué. Dans son cas, là, il a 27 ans. Il est numéro un au classement mondial. C'est sa 5e participation au tournoi des maîtres. C'est un gars qui connaît la poutine un peu du Master. Moi, je pense que, connaissant ses performances de cette saison, sa constance également, c'est un gars qui est en bonne position pour remporter le veston vert. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je le vois. Mais, tu sais, il y a toujours des surprises. Puis c'est ça, la beauté du Master. C'est que, souvent, il y a quelqu'un qui est caché complètement là dans le paysage, puis finalement, il finit par éclore, puis on le voit le dimanche, puis il réussit à faire quelque chose de tout simplement incroyable. Alors, ça commence aujourd'hui, ça va être le meilleur moment, parce que savez-vous quoi? Il pleut au Québec, profitons-en pour regarder du golf, c'est le meilleur moment pour regarder le Master sur le divan avec de la pluie à l'extérieur. Là. Écoute, moi, je pourrais pas demander mieux.
Sinon, tu voulais nous glisser quelques mots aussi sur le mondial de hockey féminin.
Oui, absolument. Ben, ça se poursuit ce soir, le championnat du monde de hockey féminin, le Canada, qui a l'intention là de, disons, se venger de la Suède, parce que la Suède, c'est une très, très bonne équipe de hockey, et c'est la Suède qui avait éliminé l'équipe canadienne l'an dernier en quart de finale. Donc, là, ça va être intéressant, parce que je pense que le Canada a une bonne équipe cette année. On compte d'ailleurs sur une fille comme Sarah Nurse, qui évolue présentement avec l'équipe de Toronto dans la LPHF. Donc, c'est un match qui va être important ce soir. C'est à 17h. Ça va être du côté du Adirondack Bank Center, Canada-Suède. Mais ça va se poursuivre également au long du week-end. On va avoir les demi-finales qui vont avoir lieu samedi, puis les matchs pour les médailles dimanche. Donc, je pense qu'on va suivre ça. Puis c'est le fun. Ça fait une pause à la LPHF. Mm-hmm. Ça nous donne aussi l'occasion de voir ces athlètes-là d'un peu partout qui sont dans la même ligue maintenant, évoluer à l'échelle internationale. Donc, c'est intéressant pour ceux qui sont amateurs de hockey féminin. Je pense que c'est un tournoi qui est à ne pas manquer et les quarts de finale qui débutent ce soir, ça vaut la peine.
Et sinon, nouvelle qui, j'allais dire sportive, dans la mesure où on se rappelle qu'il a été un sportif avant que son procès n'éclipse à peu près toute sa carrière. Là, on parle d'O.J. Simpson qui est décédé.
Oui, à la suite d'un cancer à l'âge de 76 ans. Ça a été annoncé aujourd'hui via le compte X de O.J. Simpson. Écoute, ça reste que, ce qui va retenir l'attention du côté d'O.J. Simpson, tu l'as bien dit, c'est vraiment son procès. C'est un personnage qui était hyper controversé avec les raisons qu'on connaît. Mais une chose qui est sûre, par exemple, il a été quand même assez incroyable comme joueur de football. Il a brisé des barrières raciales, rappelez-vous, avec l'Université du Sud de la Californie. À la fin des années 60, il a été porte-parole là-bas. On lui a confié justement, si tu veux, un peu les rênes de cette équipe-là, alors que dans les années 60, disons que l'ouverture n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, je trouve ça intéressant. Par contre, O.J. Simpson a quand même eu, comme je le disais, un passé difficile. Il a été emprisonné à l'âge de 61 ans. Il a purgé 9 ans dans un pénitencier du nord du Nevada. Donc, tu sais, ça a quand même été éclaboussé, sa carrière professionnelle, par justement les scandales qui l'ont suivi. Mais aujourd'hui, c'est quand même une très grosse nouvelle parce qu'O.J. Simpson va rester un joueur qui va avoir marqué son époque au niveau de son sport, qui est le football. Puis je pense que c'est un personnage qui mérite quand même qu'on se rappelle de certaines choses qu'il a fait dans sa vie, alors que d'autres sont bien tristes. On peut pas se le cacher.
Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps aujourd'hui, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Tout à fait, mon ami. Bye-bye.